Et à 7h49 minutes, le trio de Rage Against le matin devient un quatuor. Je commence à m'habituer qu'il est avec nous en personne en
à
studio. Ce matin, j'avais comme un peu oublié. J'avais comme préparé en arrivant la petite caméra qu'on a pour le Zoom en pensant, je sais pas, comme réflexe.
Ben, je peux mettre dans la pièce à côté.
Non, j'aime bien mieux que tu sois là. Comme réflexe que tu étais à Londres, cher ami. Fernand Morissette est avec nous en personne. Comment ça va?
Ça va très bien. Comment ça va vous autres?
Ça va bien et peut-être après cette discussion-là d'une dizaine de minutes, peut-être encore mieux. Parce que je trouve, et je le disais tantôt, cette situation-là assez complexe. Hier, le Canada qui a expulsé 6 diplomates de l'Inde. Dans les 6, il y a son haut commissaire aussi. La GRC qui a annoncé détenir des preuves d'activités criminelles violentes liées au gouvernement indien. On est arrivé là comment? Qu'est-ce que ça veut dire pour la suite des choses? Est-ce que la tension est si élevée que ça entre le Canada et l'Inde? Bref, on va essayer de se... ensemble. Démêler un petit peu dans cette histoire-là, mais c'est assez complexe.
C'est très complexe, parce que c'est pas en 10-15 minutes qu'on va pouvoir faire le tour au complet, là, mais commencer à comprendre, quand même, je pense que c'est important, parce que ça, c'est sûr, ça va être une question géopolitique mondiale dans les prochaines années, la relation entre le Canada, entre l'Inde et l'Occident, l'Inde et le Canada, mais aussi les autres pays occidentaux.
Fernel, veux-tu commencer avec, je vais dire, la base, puis je le mets entre guillemets, mais un peu d'où vient là, cette situation-là et nous parler un petit peu de la relation qui existe entre l'Inde et le Canada et aussi peut-être, parce que Max a dit une couple de fois dans ses nouvelles, là aussi le pourcentage de différentes croyances, les sikhs, les autres qu'on a en Inde?
Ah ben, on peut quasiment remonter, si on veut, là, un point de départ pour comprendre ce qui se passe, en 1947.
Okay.
En 1947, il y a la partition de l'Inde qui était jusqu'en 1947 une colonie britannique. Que le gouvernement britannique a divisé en à l'époque, deux pays qui sont devenus trois pays. Mais on avait l'Inde d'un côté, le Pakistan de l'autre. Le problème, c'est qu'ils ont divisé selon ce que les autorités coloniales croyaient des lignes religieuses, ethniques, mais les divisions coloniales ne sont jamais parfaites.
Mm-hmm.
Et dans le nord de l'Inde et le nord du Pakistan, il y a une région qui s'appelle le Punjab, qui était historiquement, avant la colonie britannique, une région majoritairement ou au moins contrôlée par le groupe ethno-religieux, les Sikhs.
Okay.
Les Sikhs, ça, c'est une des plusieurs communautés ethniques religieuses dans l'Inde. Aujourd'hui, il y en a beaucoup différentes. Et dans la partition, ben, eux, ils n'ont pas reçu de territoire. Alors, on avance aujourd'hui, ce groupe-là réclame une partie du territoire dans le Punjab pour faire ce qu'il va appeler le Khalistan, un pays qui est propre aux Sikhs.
Pays qui serait autant au Pakistan qu'en Inde, autrement dit. On redéfinirait les frontières de ces deux pays-là.
C'est surtout en Inde.
Okay.
C'est le territoire exact, je veux dire, il n'est pas défini. Il
n'y a pas
de carte où ils ont écrit c'est où. Mais à quelque part là-dedans, un pays, et c'est surtout en Inde, alors c'est surtout le gouvernement indien qui est impliqué, le gouvernement indien qui est très hostile à cette idée-là. Pourquoi est-ce qu'on en parle ici? Ben, c'est qu'entre autres, le Canada est le pays à l'extérieur de l'Inde et du Pakistan où il y a le plus de Sikhs au monde. La communauté sikh au Canada est très, très importante. Un peu moins au Québec, alors on en entend peut-être un peu moins parler, mais elle est très, très importante, entre autres en Ontario, en Colombie-Britannique. C'est une communauté qui est importante, qui est surtout tissée très serrée et aussi qui est quand même assez bien organisée politiquement. Ce qui fait que pour la plupart des partis politiques canadiens, c'est une communauté qui ne peut pas vraiment ignorer s'ils veulent aller chercher, par exemple, des sièges de plus au Parlement. On peut penser, par exemple, à Jagmeet Singh, qui lui-même est, je veux dire, c'est un Canadien, là, on ne remet pas en doute ses allégeances, mais il est de confession sikh, il est issu de cette communauté-là. Dans le gouvernement Trudeau, il y a des ministres qui sont issus de cette communauté-là aussi, les conservateurs aussi. C'est un groupe qui est politiquement important dans le Canada, particulièrement le Canada anglais.
Puis là, tu parles de politiquement important. Alors, est-ce que l'Inde devenir s'ingérer au Canada, puis on a vu de l'ingérence aussi aux États-Unis, ça fait en sorte qu'on craint que les Sikhs réussissent à convaincre le gouvernement canadien que la souveraineté sikh est une bonne chose en Inde?
C'est la crainte du gouvernement indien actuel. Si on prend leur position, mm-hmm. je veux dire, j'adopte pas en entièreté leur position.
Non, mais c'est ça, juste pour bien comprendre pour bien leur comprendre. Thinking.
C'est ça. Alors, selon le gouvernement indien actuel, qui est quand même un gouvernement assez spécial, disons. C'est un gouvernement qui se comporte de façon de plus en plus autoritaire, selon certains. Mais selon le gouvernement indien actuel, il y aurait des ressortissants sikhs ou des membres de la communauté sikh au Canada qui sont en train d'utiliser leur influence, leur communauté, pour, entre autres, appuyer des membres du mouvement khalistanais, le mouvement séparatiste sikh, de façon violente, parce qu'il y a en effet des factions en appui à cette idée-là qui utilisent des moyens violents pour faire avancer leurs objectifs. Alors, le gouvernement indien dit, ben là, le Canada est en train de tolérer ça, on ne peut pas le faire, alors on doit agir. En lien avec ça, il y a eu, en juin 2023, l'assassinat d'un citoyen canadien en Colombie-Britannique,
oui.
Mais qui était associé au mouvement séparatistique en Inde. L'Inde officiellement nie son implication, mais en juin 2023 et après, la GRC a sorti pour dire que c'était un assassinat commandé par le gouvernement indien. Alors là, déjà là, on met un gros froid sur les relations diplomatiques. Quand un pays est en train d'envoyer des assassins pour tuer les citoyens d'un autre pays, ça fait mal aux relations diplomatiques entre ces deux pays-là. C'est sûr que le Canada veut maintenir une bonne relation diplomatique avec l'Inde. Il y a beaucoup de ressortissants indiens aussi au Canada. C'est aussi une communauté très importante. Mais surtout, l'Inde, c'est le pays qui a le plus de population au monde. Mm-hmm. C'est en train de devenir une des puissances économiques mondiales. Et l'Occident, en général, ne veut pas briser cette relation-là. L'Inde continue à nier ses implications, mais depuis ce temps-là, bon, le FBI aux États-Unis ont dit qu'eux aussi ont déjoué des tentatives d'assassinat contre des ressortissants sikhs aux États-Unis. Ça devient de moins en moins facile croire le gouvernement indien quand ils disent « non, on n'est pas impliqué ». Ce qui nous mène à hier, quand la GRC qui sort disant « on a des preuves comme de quoi il y aurait 6 membres du corps diplomatique indien » au Canada, qui sont impliqués dans un organisme criminel d'extorsion, d'intimidation et de planification de domicile. C'est quand même très, très sérieux. Mm-hmm. Comme ces gens-là sont protégés par l'immunité diplomatique, la GRC ne peut pas intervenir. Alors, c'est le gouvernement qui dit « vous sortez ». Et en réponse, le gouvernement indien fait la même chose, a expulsé 6 diplomates canadiens aussi.
Farnell, je sais que tu n'as pas de boule de cristal, mais est-ce qu'il y a matière à s'inquiéter? Est-ce que ça pourrait escalader et gâcher, ruiner les relations qu'on a entre l'Inde et le Canada?
C'est sûr que ça va pas dans la bonne direction, okay, pour des relations harmonieuses. Faut pas oublier non plus, tu sais, comme je disais un peu tantôt, l'Inde est une des puissances économiques en devenir. Elle est de plus en plus associée à ce qu'on appelle le BRICS, qui est un peu comme le G7 des pays non occidentaux, très proche ou se rapproche de la Russie, se rapproche de pays qui sont pas nécessairement ennemis au Canada et à l'Occident, mais certainement hostile aux intérêts. Et perdre l'Inde, perdre notre influence à l'Inde, c'est un pont de moins. Ça va augmenter la division géopolitique mondiale, ce qui est pas dans les intérêts de qui que ce soit, je pense.
On sait qu'on se dirige plus tôt que tard vers des élections fédérales. À quel point ça risque d'être un sujet de discussion, les relations avec l'Inde, puis ce qui s'est passé dans les dernières heures? Puis qui pourrait en sortir plus gagnant, qui pourrait en sortir plus perdant, pour qui c'est de la soupe pas mal chaude, ce dossier-là?
C'est un des rares dossiers où c'est pas à l'avantage de personne, je pense. C'est certainement pas à l'avantage du gouvernement canadien de se retrouver avec cette espèce de, je parle d'une bombe puante, si tu veux. C'est une situation qui est très difficile. C'est pas à l'avantage de personne parce que c'est les trois partis politiques principaux pan-canadien, disons, j'exclus le bloc pour l'instant, ont tous intérêt à vouloir courtiser et la communauté indienne. Et là, je veux préciser ici, là, les gens de la communauté indienne au Canada ne sont pas nécessairement en accord ou en appui avec le gouvernement de l'Inde. Il faut faire la part des choses. Il ne faut pas mélanger les choses. Mais ne veulent pas, justement, antagoniser qui que ce soit et en même temps ne veulent pas non plus renier ou se mettre à dos la communauté sikh qui, dans plusieurs cas, appuie certains de leurs candidats. Alors, c'est un conflit qui, malheureusement, va se retrouver probablement en arrière-plan. Ça ne va pas être le conflit à l'avant. Le gouvernement canadien ne va pas tomber pour ça, mais c'est une chose de plus que les politiciens vont devoir prendre en compte, particulièrement quand s'ils font des campagnes un peu plus clientélistes où ils visent une communauté ou une autre communauté. Je suis sûr qu'il y a bien des députés du NPD, du Parti libéral du Canada et des députés conservateurs qui vont devoir répondre à des questions de leur communauté qui préféreraient pas devoir se positionner.
Tu as mentionné à plusieurs reprises depuis le début de notre entretien que l'Inde, au niveau économique, va devenir la puissance mondiale. Est-ce que c'est justement ce point-là qui fait en sorte que, puis là, je vais prendre cette expression-là, qu'on se permet de jouer les gros bras un peu parce qu'on sait qu'on a le gros bout du bâton?
Peut-être, probablement. Le premier ministre actuel de l'Inde, Narendra Modi, est quand même quelqu'un qui est ouvertement un nationaliste indien. Il met l'Inde en premier, il met les intérêts de son pays en premier, ce qui est parfaitement correct, mais il le fait de façon peut-être un peu plus agressive que les gouvernements indiens passés. Et peut-être que justement, c'est en voyant que, ils sont en train de devenir, ils ne sont pas encore, mais ils sont bien positionnés pour devenir, si, probablement pas la puissance économique mondiale.
Mais une des.
Certainement une des puissances économiques mondiales, à mesure qu'on continue à avancer vers une réalité géopolitique mondiale multipolaire. C'est de moins en moins vrai qu'il y a les États-Unis et son giron d'alliés dans lequel on fait partie, qui domine la planète et les autres sont un peu en satellite à ça. Ça, c'est la réalité de la deuxième moitié du 21e siècle. Ça va probablement pas être comme ça. Et l'Inde commence à se positionner comme un joueur autonome qui n'est pas nécessairement tenu à être ami avec un parti ou l'autre.
Fernand, y a-tu des liens à faire avec l'ingérence de la Chine qui a aussi, dans les dernières années ou dans la dernière année, été dans les médias et dans l'actualité? Et est-ce que le commun des mortels est juste pas au courant que ça se passe de même, de l'ingérence de d'autres pays dans un pays, dans ce cas-ci le Canada, ça arrive, puis on a plus qu'on pense?
Dans les rapports les plus récents des services de renseignement du Canada, on citait la Chine comme étant l'acteur principal dans l'ingérence politique au Canada, mais l'Inde comme étant, de façon secondaire, aussi une inquiétude là-dessus. Alors oui, si on est rendu à avoir un gouvernement indien qui se sent confortable à commander des assassinats sur des citoyens canadiens, je serais pas surpris que ce même gouvernement-là, dans les ombres, se sente confortable à vouloir jouer un petit peu dans les élections aussi. Il faut qu'on en soit conscient, il faut qu'on soit vigilant. Et puis là-dessus, tout ce qu'on peut faire, c'est pas nous quatre dans la salle qui vont savoir exactement qui fait quoi où. Là. C'est toutes des choses qui se font dans l'ombre. Mais il faut qu'on en soit conscient et puis il faut pas qu'on s'imagine qu'on vit dans un monde où ça se fait pas, parce que ça se fait.
En terminant, peu importe le parti politique au pouvoir au Canada, parce qu'on sait avoir des élections prochainement, puis il y a de forts risques que Pierre Poilievre devienne le premier ministre canadien, est-ce qu'on se retrouve pas quand même dans cette situation-là, dans une espèce de no man's land, dans le sens que tu peux pas cautionner ce que Lane est en train de faire, c'est-à-dire commander des assassinats, mais en même temps, tu veux pas trop effriter tes relations parce que tu sais que tu as besoin d'eux en tant que pays occidental?
Je pense qu'il y a ça, certainement. Il y a certainement une confiance aussi que l'Inde reste une démocratie. Le gouvernement actuel ne sera pas le gouvernement à jamais. Alors, on ne veut pas brûler des ponts avec le peuple indien parce que le gouvernement actuel agit d'une façon qui n'est pas nécessairement dans nos intérêts quand le prochain gouvernement va peut-être être beaucoup plus ouvert à rétablir cette relation-là. Et puis là, si on a fermé les connexions, si on a brûlé les ponts, si nos liens d'affaires sont rompus, ça ne sera pas dans les intérêts de qui que ce soit. Alors, je pense qu'il faut reconnaître que c'est très sérieux ce qui se passe. C'est complètement inacceptable pour n'importe quel pays au monde de permettre à un autre pays de faire ce genre de choses-là. Mais en même temps, on reste sur la même planète et ça reste un fait qu'il y a des échanges économiques très, très importants entre le Canada et l'Inde. Puis cette relation-là, il faut quand même la protéger.
Situation complexe. Je me sens un petit peu moins mêlé que v'là à quoi 13-14 minutes quand on a commencé cette discussion-là. C'était bien intéressant. C'est le fun d'en jaser. Je vous suggère fortement et souvent d'aller suivre Fernand Morissette sur les réseaux sociaux. Il y a Louis Gabriel qui nous a texté tantôt. « Salut les boys, je reviens d'un voyage à Londres et n'eût été de Fernand, je n'aurais jamais vu la Magna Carta à la British Library ni la proclamation d'émancipation américaine. Fernand, c'est le meilleur. » Donc voilà, on peut même avoir des suggestions de visites ou de choses à voir.
Et c'est
aussi gratuit.
Vous pouvez l'avoir gratuitement. Vous rentrez, vous ne payez pas de billet. La Magna Carta, elle est dans les archives au premier niveau de la British Library. Super facile, allez la voir. Ça vaut la peine.
Il est partout sur les réseaux sociaux. Allez le suivre. Vous n'allez pas le regretter. Fernand Morissette, toujours un plaisir de te voir en personne puis de jaser actualité avec toi, cher ami.
Un grand plaisir à moi aussi. Salut. À la prochaine.
À bientôt.
Salut. On s'arrête 2-3